Arimage s'inspire des grandes lignes du programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au centre du Québec. Le premier objectif du programme est « pas de pauvreté ». Son but est de diminuer drastiquement, voire éliminer, la pauvreté. Au Canada, au Québec et au centre du Québec, la pauvreté est encore bien présente. Lutter contre la pauvreté, c'est améliorer les conditions de vie des individus, c'est réduire les inégalités et ça permet de renforcer le potentiel des individus ainsi que des collectivités. Toutefois, pour viser à éliminer la pauvreté, il faut d'abord reconnaître son existence et les réalités des personnes qui la vivent. Droit devant Érable, un organisme de défense collective des droits, a justement lancé la campagne Vert. Cette campagne vise à sensibiliser la population aux différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'Érable. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment cette campagne a été créée et comment elle se déploie. Bienvenue à Arimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Donc aujourd'hui, je reçois Yvon Poudrier, qui est agent de développement chez Droit devant Érable, et nous allons discuter de la campagne de sensibilisation des différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'Érable. Bonjour Yvon, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Audrey, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir.
Super. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de Droit devant Érable. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi la mission de l'organisme et c'est quoi les services que vous offrez?
Oui. En fait, l'organisme existe depuis au-delà de 21 ans, à Place Civile. Sa mission principale, c'est la défense collective des droits sociaux des personnes vivant une situation de pauvreté. Il y a beaucoup de services qui sont offerts, je peux en nommer que quelques-uns. Quand on parle de défense des droits sociaux, quelquefois les gens nous sollicitent, ils ne sont pas très à l'aise de répondre à certaines formalités qui leur sont adressées pour toutes sortes de demandes. Ça devient pour nous une forme d'accompagnement, l'aide dans leurs dossiers. Il y a des cafés-rencontres aussi qui ont lieu au bureau même de Droit devant Érable. Une fois par mois, où là, il y a différents sujets d'information qui sont donnés à toute personne qui veut y participer. Il y a annuellement, ce qui est très apprécié, particulièrement pour ces personnes-là, une clinique d'impôts qui a lieu tout le mois de mars et avril de chaque année, avec une minime contribution. Les gens, ils sont, je dirais pas accompagnés, mais ils sont soutenus dans leur déclaration d'impôts. Et il y a deux comptables bénévoles qui sont vraiment très appréciés. Il y a aussi, le souci pour Droit devant Érable, c'est si on ne peut répondre à une demande spécifique, on s'attarde à référer les personnes aux bonnes ressources pour ne pas justement les laisser dans le vide. Donc voilà, c'est un peu... Il y a de l'écoute, il y a des recherches de solutions aussi qui sont apportées, mais c'est grosso modo les grandes lignes de la mission et des services de Droit devant Érable.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est ça, j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement de la campagne de sensibilisation. Mais avant de te poser des questions plus poussées, est-ce que tu pourrais nous faire une brève description de ce que c'est cette campagne-là de sensibilisation?
Oui, en fait, la campagne, on l'a thématisée, c'est VERS, V-E-R-S, et pourquoi? Mais c'est pour que la population puisse mieux voir. Écouter, reconnaître et être sensible à ce que ces gens-là vivent. Et l'objectif ultime, là, c'est vraiment de démontrer différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'Érable. C'est évident que l'important dans tout cela, c'est que la population en général puisse modifier sa perception, sinon son regard envers ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont été... excuse l'expression, là, pour la plupart, ont été poqués dans leur vie, ont toutes sortes de situations qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette position-là. Et c'est l'objectif ultime de la campagne pour que la population puisse vraiment être sensible à ce que ces gens-là vivent dans leur réalité quotidienne. Voilà.
Génial. Puis est-ce que tu pourrais, tu nous as parlé là, du grand objectif, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, comment ça se concrétise?
OK. La campagne, qu'est-ce qu'on fait dans la campagne pour
Exactement.
Sensibiliser les gens? OK, là, je comprends. En fait, à la base, on me pose souvent la question suivante, mais pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce qui a pu attirer Doigts devant Érable à mettre de l'énergie dans ce projet-là? Si je parle personnellement, c'est je dirais que les mots qui me reviennent souvent à l'esprit, c'est avoir de l'empathie pour ces gens-là, une croyance profonde qu'on peut leur venir en aide, pas nécessairement par un service, là, parce que ce n'est pas palpable ce qu'on fait là c'est de changer de mentalité, là. C'est pas nécessairement simple, ça ne peut pas du jour au lendemain. Puis personnellement, je vois ça comme un défi afin de contribuer au bien commun. Je viens du privé, puis quand je regarde ce que je peux faire dans le communautaire, je me sens à l'aise dans ce milieu-là. C'est comme si je voulais transmettre certaines connaissances ou du moins donner un coup de pouce à ces gens-là. Et pour revenir à ta question de façon plus concrète, nous, là, à Droit de Vinrame, pour promouvoir le projet, on a tout simplement mis sur place ou du moins créé un PowerPoint dans lequel ça dure 45-50 minutes. Et là, il y a des statistiques qu'on donne sur la pauvreté, des statistiques qui parlent de la pauvreté dans la MRC d'Arabe ou au Québec en général, mais c'est plus spécifique à la MRC d'Arabe. On va aussi en même temps donner l'occasion aux gens de visionner les quatre capsules vidéo que je parlerai un peu plus tantôt, comment est-ce qu'on s'y est pris. Il y a un questionnaire des connaissances. En même temps, à la fin, lorsqu'on a terminé, on fait remplir aux gens un sondage pour voir, qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Et quand les rencontres ont terminé, on retourne un questionnaire pour savoir qu'est-ce que vous faites dans votre milieu? Parce qu'on n'est pas là, nous, pour faire des échanges qui demandent beaucoup de temps, mais on se limite à entre 45 et 50 minutes pour par la suite revenir avec un questionnaire plus spécifique. Donc, on y va par étapes. Puis à date, on a eu l'occasion sur 11 municipalités d'en présenter 5. Il y a des clubs sociaux qui manifestent un intérêt. Et j'ai fait un inventaire des endroits que l'on a fait comme présentation de l'atelier ou qu'on va faire nécessairement. Puis on est rendu à 22 rencontres d'ici novembre prochain. C'est assez important, mais c'est ce qu'on veut. On veut promouvoir cet atelier-là. Voilà, c'est grosso modo la façon dont on s'y prend.
Bien, merci. Je suis contente de voir aussi qu'il y a une belle réponse, un bel intérêt envers les ateliers, justement, mm-hmm. de la campagne verte. On pourra en parler un peu plus en détail sous peu. Mais d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce projet-là?
J'en ai parlé un petit peu tantôt, là, c'est par empathie et dans la croyance que je peux être utile. Mais un jour, on s'est posé la question suivante. Mais c'est pour qui ce projet-là? Puis à qui on veut vraiment s'adresser? La première question n'a pas été trop difficile à répondre. Pour qui? Mais c'est pour toutes les personnes qui vivent une situation de pauvreté. Et à qui on veut s'adresser? Je ne les mettrai pas par ordre prioritaire, là, mais il y a les conseils municipaux, les clubs sociaux, les organismes communautaires. Je reste surpris de la réception de certaines entités, comme exemple la Nuit des sans-abri. Au mois d'octobre, j'allais faire une conférence à cette activité-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de réceptivité, parce que la pauvreté, elle est très large, mais elle n'est pas toujours... Et c'est ça qu'on aspire à ce que les gens voient la pauvreté, pas juste sur l'aspect financier. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui ont été malmenés dans leur vie. Ils ont besoin, quelquefois, pas juste de l'aspect financier. Ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'être compris. Ils ont besoin d'être regardés autrement. Ils ont besoin d'être intégrés dans la société parce que l'exclusion sociale fait partie souvent de leur situation. Et à un moment donné, je me suis posé la question suivante. Comment, moi, je définis la pauvreté pour au point croire que ce que je suis en train de faire, ça a du sens? Puis que Droits devant Érable aussi soit vu comme un organisme de soutien, mais aussi un organisme qui essaie de faire de la concertation avec tous les autres organismes. Il y en a 39 organismes de la Corporation de développement communautaire de l'érable, mais ils vivent un peu la même situation, c'est-à-dire la plupart de leurs membres ou des personnes qui desservent ou une grande partie vivent en situation de pauvreté. Donc, on a un projet qui concerte à peu près à tous les organismes de la MRC de l'érable. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est pour moi, la définition de la pauvreté, elle s'apparente à une réponse qui n'est pas facile à répondre. Je pense que pour avoir lu un peu sur cela, sans être un connaisseur, il y en a des définitions de la pauvreté. Mais celle qui me rejoint le plus, c'est l'incapacité de pouvoir manger, se vêtir, avoir des soins de santé appropriés et se loger. Et ça, c'est toujours en rapport au reste de la société. Fait que si on s'en va au Gabon, ou on s'en va en Afrique, ou on s'en va un peu partout dans le monde, il y a des gens qui vivent en situation de pauvreté parce que c'est facile de. Bien, c'est facile. C'est particulièrement évident qu'il y a une pauvreté dans un milieu à comparer de ceux qui ne sont pas dans la pauvreté. Et c'est un peu ça pour moi, la pauvreté. C'est vraiment d'être capable d'avoir des soins de base ou des éléments de base, comme l'échelle de Maslow dit si bien, par rapport à un autre créneau dans la même société. Voilà.
Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ta définition. Je trouve ça intéressant parce que, justement, moi-même, avant de faire cette entrevue-là, j'ai regardé moi aussi des définitions. Puis, il y a la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec qui donne une définition de la pauvreté. Puis, je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais parce que, oui, on parle de l'aspect économique, mais on va un peu au-delà de ça. Fait que je vais me permettre de la lire, je t'inviterai à commenter si tu le souhaites. Dans le fond, on définit la pauvreté comme étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaire pour acquérir et maintenir son autonomie économique et pour favoriser son intégration et sa participation à la société. C'est là que je trouve intéressant que ça vient rejoindre ce que tu disais. Oui. Que quand on parle de pauvreté, on pense souvent à l'aspect économique, donc l'autonomie économique, être en mesure de pouvoir faire ses propres choix parce qu'on a les moyens économiques de le faire, mais aussi d'être en mesure de participer de façon intégrante à la société.
Bon, et je suis content que tu me dises ça parce que je trouve effectivement qu'il y a vraiment un lien. C'est comme si tu faisais du pouce avec la définition que j'ai donnée tantôt. Puis j'ajouterais ceci à celle que tu as observé, c'est le développement personnel de la personne.
Tout à fait.
Ça, ça devient, je dirais même que ça s'apparente à une meilleure dignité. À toute personne qui vit dans la société a droit à sa propre dignité, quel que soit leur statut. Et ça, je trouve ça intéressant ce que tu donnes. C'est beaucoup plus global comme définition. Je trouve ça tout à fait approprié ce que tu ajoutes.
Bon, bien, tant mieux. Puis, avant d'aller un peu plus dans comment est né le projet, etc., est-ce que tu serais en mesure un peu, justement, parce que là, on vient de parler comment ça se définit, la pauvreté, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le portrait de la pauvreté dans l'érable? Tu sais, peut-être nous sortir quelques données aux statistiques de ta présentation qui peut-être marquent les esprits ou qui font sursauter à l'occasion.
C'est assez évident que lorsque j'ai lu le rapport de la MRC de l'érable sur l'indice de défavorisation dans la MRC de l'érable, dont le dernier date de 2019, on va te dire que depuis 2019 à aujourd'hui, la COVID et tout le reste, ça a sûrement été amplifié. En fait, je t'en donnerai trois. Lorsqu'on parle du pourcentage de la population de la MRC de l'érable, ça regroupe 11 municipalités pour environ 23 500 personnes, il y aurait plus de 6,4 % de la population qui reçoivent l'aide du dernier recours, autrefois appelée prestation d'aide sociale. De plus, il y a des secteurs défavorisés dans la MRC de l'érable. On a une carte dans la présentation de notre atelier sur PowerPoint. On identifie une carte, il y a des secteurs de couleurs différentes. Et quand on arrive dans les secteurs défavorisés, il y en aurait 14 % des personnes qui vivent dans la MRC d'Arabe qui vivent dans un secteur défavorisé. On parle de 3 335 personnes. Comme de raison, ça inclut les 1 503 personnes qui reçoivent des prestations, l'aide du dernier recours. Puis un fait aussi qui m'a vraiment étonné, puis c'est pas étonnant de l'entendre, mais pour ma part, c'est que les familles monoparentales sont représentées par plus de 70 % sous la responsabilité d'une femme. Et dans les familles monoparentales, c'est presque 20 % de ces foyers-là qui reçoivent l'aide du dernier recours. Puis on parle de 5120 familles. Ça commence à faire du monde, ça, là. Donc, ça, ce sont des statistiques que l'on donne dans notre PowerPoint, puis il y a beaucoup d'autres informations que l'on donne aussi. On parle de la pauvreté chez les personnes handicapées, la pauvreté chez, je viens d'en parler, chez les femmes, le phénomène de la pauvreté, qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent là avec des statistiques. Il y a plusieurs informations que l'on donne dans le PowerPoint que l'on présente et qui fait état de la pauvreté dans la MSLR. Voilà.
Merci pour les informations. Maintenant, j'aimerais savoir, tu en as parlé un petit peu, que vous êtes questionné à savoir, bon, c'est pour qui ce projet-là, puis tout ça, mais un peu, c'est né de où ce projet-là? Parce que je sais que le droit de bain érable, vous êtes membre du comité stratégique de développement social de l'érable, puis que la lutte contre les préjugés, ça a été identifié comme étant un des enjeux prioritaires là, par le comité en question. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu, justement, des réflexions que vous avez eues à l'interne parallèlement à l'identification de cet enjeu-là par le comité stratégique de développement social? Comment ça s'est déroulé?
Oui, bon, c'est simple, puis en même temps, il n'y avait rien de défini à la base. René Levasseur, Mme René Levasseur, qui était autrefois par intérim au niveau de la direction de l'organisme, a soulevé le point suivant, puis on a partagé tous les deux pendant un certain temps. L'objectif, c'était comment faire pour promouvoir une meilleure connaissance de l'organisme. Et il était soulevé certains éléments, puis il y en a un qui est ressorti souvent dans notre discussion, c'est pourquoi on ne ferait pas une campagne de sensibilisation afin de démontrer différents visages de la pauvreté. Là, je te fais un bref résumé, ce n'était pas aussi évident que ça à la base. Là. Mais l'objectif, c'était, oui, on veut se faire connaître, mais on ne savait pas comment. Et là, plus on participait au comité stratégique de développement social de la MSLRA, plus on s'apercevait que faire une campagne sur la sensibilisation liée à la pauvreté devenait un enjeu collectif. Et c'est là qu'on s'est mis à faire des démarches en croyant que ce projet-là pourrait être vraiment mis en place avec l'aide d'un comité consultatif qu'on a créé. Il y a eu 12 organismes de la MSLRA qui ont accepté de challenger ces idées de base-là du projet à deux reprises avant officiellement de dire « OK, je pense qu'on est prêt, là, on peut commencer à mettre au monde cette réflexion-là et de partir la campagne. » Voilà, c'est aussi simple que cela. De la question est arrivée la naissance d'un projet qui est débuté depuis le lancement en mai cette année.
Justement, tu viens de mentionner qu'il y a un comité consultatif qui s'est mis en place. Est-ce que tu pourrais nous nommer dans un premier temps les partenaires qui ont participé à ce comité consultatif-là et parler un peu de la façon qu'ils ont contribué au projet? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à ce que vous aviez pensé initialement?
OK. Il y a Impact Emploi, appelée Civil. Il y a l'Association des personnes handicapées de l'érable, la polyvalente La Samar, la Maison des jeunes L'Express de Plessisville, la Maison des femmes des Bois-Francs, ORAPÉ. Il y a, attendez une minute, oui, l'Office régional d'habitation de l'érable. Il y avait dans le temps le préfet de la MSC de l'érable, Jocelyn Bédard, la ville de Laurierville par le DG. Il y avait aussi Caroline Moreau de la Corporation de développement communautaire de l'érable, la directrice générale. Il y avait deux bénévoles qui étaient liés à droit de vin érable. Il y avait aussi le CIUS par Nathalie Dangview. Puis il y avait aussi Amada du Comité régional de développement social du Centre du Québec. Et comme de raison, il y avait René Levasseur et moi. Donc, à l'aide de ces personnes-là, ils ont été très participatifs. Je dirais qu'au 3 à 4 mois, on s'encontrait, dépendamment du cheminement où on était rendu. Puis à un moment donné, on a eu l'aval, puis on a parti le projet qui est en cours. Voilà.
Puis ce comité-là, vous vous êtes rencontrés, comme tu disais, mais comment ils ont contribué au projet, là? Comment ils ont bonifié ou comment ils ont donné une plus-value au projet là, dans sa forme actuelle?
Parfait, bonne question. En fait, on l'a fait avec eux. Deux présentations comme si on rencontrait un conseil municipal ou un organisme du milieu ou un club social. On a présenté le projet sous forme de PowerPoint sans prétendre qu'il était up-to-date, sans prétendre qu'il était tout à fait conforme à la réalité. Donc, pour venir à ta question, ces gens-là, étant dans des milieux différents, ont été en mesure de dire « Oups, ils vont, pour René ». Il y a des éléments à l'intérieur de ça qui pourraient être modifiés, ajoutés, selon ce que nous, on vit. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Chacun des organismes ont donné leur point de vue, puis il est arrivé un résultat où nous, on a cru que ce qu'on retenait des entretiens pouvait favoriser amplement la mise en place du projet. Donc, c'est vraiment, je dirais le mot qui résume le plus à ta question, c'est ils ont venu challenger et bonifier le projet. Et le projet s'apparente souvent autour du PowerPoint et des capsules parce que c'est notre outil, ce sont nos outils de communication, à part les affiches et à part le Facebook de Doigts de Vingrand. Voilà.
Merci. Puis, est-ce que tu aurais un exemple peut-être justement d'une de ces choses-là qu'on te dit « Ah, ça aurait le mérite d'être bonifié ou creusé un peu plus. » Est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose qui a été apporté par un partenaire?
Je dirais que de façon générale, il n'y a pas eu nécessairement des éléments. Ça a été vraiment ce qu'on appelle du peaufinage. Quand les gens ont participé. Mais pour nous, ce qui était le plus important, c'était de créer de la concertation pour que les organismes participants puissent être inclusifs au projet. Ça, je pense que c'est autant important, sinon même plus que ce qu'ils ont pu nous donner comme commentaire ou bonification ou l'effet de se faire challenger. Parce que de façon générale, je dirais, tout le contenu de l'atelier était très représentatif. Il y a des choses où on a coupé parce que ce n'était pas nécessaire d'en mettre plus que ce qui était nécessaire. Donc, c'est plus là que ça s'est fait. C'est plus le peaufinage parce que toutes les fois qu'ils nous faisaient des commentaires, il fallait bien souvent bonifier pour que ça soit plus représentatif. Mais tout ça, c'est surtout, d'abord et avant tout, parce que ces gens-là se sont sentis inclusifs au projet. Et ça, pour nous, ça devenait important parce que c'est la concertation qui fait que ce projet-là a pu être représentatif quand on fait des présentations depuis le mois de mai puis qu'on va en faire encore puis c'est pas fini, là. Donc, c'est de cette façon-là que ce comité-là a pu se situer dans notre bonification du projet.
Merci. Puis, je vais me permettre d'une reformulation pour voir si j'ai bien compris là, ce que tu disais dans le fond. La contribution des partenaires, c'est le fait que ça vous a amené à justement être plus représentatif des différents visages de la pauvreté, de prendre en considération différentes situations qui peuvent être vécues par exemple, les usagers de chacun de ces organismes-là.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça, ça ne peut pas être plus clair.
Excellent. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des capsules vidéo. Donc, tu l'as nommé, il y a 4 capsules vidéo.
Oui.
Sans aller dans le gros détail, est-ce que tu pourrais juste nous présenter brièvement le scénario de chacune de ces capsules-là? Qu'est-ce qui est représenté dans chacune de ces capsules-là?
OK. À la base, en fait, il y a 3 choses. La première, ce qu'on voulait, c'est que le projet de la campagne, ou du moins le contenu, puisse être attractif. Ça, c'est un des premiers critères qu'on voulait. Le deuxième, qu'il soit représentatif. Puis que le troisième, qu'il y ait, à l'aide de ces capsules-là, qu'il y ait une certaine forme d'outil de visibilité. Donc, si nous, on propage les capsules, bien, on aspire à ce que d'autres entités puissent les utiliser pour les promouvoir à l'intérieur de leur propre entité. Et l'idée, ça a été de faire participer différents organismes qui ont accepté de solliciter 3 personnes. Il y a 6 organismes de la MRC Laval qu'on a sollicité pour leur demander ceci. Accepteriez-vous de solliciter 3 personnes que vous pourriez sélectionner qui accepteraient de nous faire part de ce qu'ils vivent? Et à notre grande surprise, on en a eu 15. On visait 18, mais 15, c'est déjà pas mal. Et du mois de février au mois d'avril 2021, le producteur et moi, par Zoom, on a fait des entrevues qui nous ont donné beaucoup d'émotions parce qu'il y avait de la réalité. Là. On était face à eux dans le Zoom. Mais les gens recevaient une lettre de confidentialité, savaient que leur nom ne serait pas mentionné, puis ils avaient au préalable les 5 questions qu'on posait. Donc, ça s'est déroulé de façon assez favorable. Il y a eu ORAPE qui a accepté de nous référer des personnes, la Maison des femmes des Bois-Francs, la Maison des jeunes, l'Express de Paix-Civile, la Polyvalente de la Samar, l'Association des personnes handicapées de l'ERAM, puis l'Association régionale d'habitation de l'ERAM. Pour te mettre en contexte, on est pendant 45 minutes pratiquement, c'est ça que ça prenait par entrevue, avec des gens qui nous répondaient adéquatement selon leur vécu. Je dis adéquatement parce que chacun avait leur propre histoire. Là. Et l'objectif ultime de tout cela, c'est que le producteur puisse avoir du contenu pour que les capsules puissent être représentatives, dont un des critères que l'on voulait dans cette campagne-là, qu'elle soit attractive, la campagne, mais qu'elle soit aussi représentative. Puis on sait qu'à ce jour, les 4 capsules qui durent environ 3 minutes, 3 minutes et demie, représentent vraiment la réalité. Et pour nous, c'est une grande fierté et même, je dirais, j'irais même jusqu'à dire une certaine forme de soulagement d'être capable, non pas juste de dire, mais de visualiser. C'est pour ça que la thématique « voir, écouter, reconnaître et sensibiliser » ces capsules-là, là, je dirais que c'est pratiquement 50% de notre outil de visibilité ou de sensibilisation dans notre campagne. Voilà.
C'est vraiment intéressant de voir comment vous avez procédé pour créer ces capsules-là, puis de voir comment c'est basé sur le vécu de personnes réelles qui vous ont inspiré. Je suis curieuse, c'est quoi les 5 questions que vous posiez lors de ces entretiens-là? Okay.
En fait, une des premières questions, c'est comment se fait-il que vous vous trouvez dans une situation de pauvreté? En ce qui concerne votre vécu, quelle est votre priorité la plus importante dans votre vie? Si demain matin, vous auriez ce qu'il faut pour sortir de cette pauvreté-là. Et la troisième, comment vous la vivez? Est-ce que vous la vivez avec de l'isolement? Est-ce que vous vivez des préjugés? Est-ce que vous trouvez que la population en général vous soutient? Et avez-vous des organismes qui vous soutiennent adéquatement? C'est pas mal le résumé des questions assez pertinentes. Puis, j'irais même plus loin que ça. Même si on posait 5 questions, je dirais au-delà de 80 % des personnes qu'on a interviewées, on débordait. On se retrouvait sur un autre terrain qui était plus approprié que de s'en tenir juste aux questions, parce que la personne est plus ouverte ou le contraire. Puis on n'avait pas pensé de parler de ça, puis la personne nous emmène là où on ne pensait pas aller. Mais on avait quand même un guide, puis les questions, c'était ça. Puis c'était aussi, ou principalement, dans le but de sécuriser les personnes pour qu'ils sachent où est-ce qu'on s'en va avec nos questions. On ne voulait pas les embêter en entrevue. Mais ça s'est vraiment bien déroulé. Je dirais que la plupart des personnes, ils ont vu ça comme une certaine forme de reconnaissance dans leur vécu. On prend la peine de les respecter, mais les autres, ils prennent la peine de se confier. Puis ça, c'est drôlement intéressant à titre d'agent de développement puis à titre de producteur des capsules. Je te jure, on avait des frissons sur le bras. Là. On avait chacun nos caméras. On était ici dans mon appart. Puis la COVID est encore là. Mais quand moi, je n'étais plus capable, c'est Pierre-Luc qui prenait le relais parce que des fois, on entendait des affaires là, qui c'est ça, qui nous faisaient frémisser. Voilà.
Pierre-Luc étant Pierre-Luc Houde, le producteur des capsules. Là, on ne l'avait pas nommé encore, donc pour préciser aux auditeurs, auditrices.
Oui, comédien à 16 heures et un homme très sympathique et très, très dévoué dans ce projet-là. Il a vraiment pris ça à cœur, Pierre-Luc. Et voilà, puis c'était lui qui était notre animateur lors du lancement au mois de mai de la campagne.
Excellent. Ouais. Les capsules vidéo, si les gens veulent les visionner, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode vers le lieu où ils pourront, où elles pourront aller le visionner. Donc, sera facilement retraçable de cette façon-là. Mais peut-être pour donner le goût aux gens, là, est-ce que tu pourrais juste nous faire un bref avant-goût de qu'est-ce qu'on retrouve dans ces quatre capsules-là?
Oui, puis je suis content que tu me poses la question. Il y a une première capsule là, qui on donne un avertissement aux gens parce que c'est une femme aujourd'hui dans la cinquantaine que la comédienne a été assez directe dans ses propos, qui sont par la fois un peu vulgaires, un peu sexistes, mais je termine en disant que cette femme-là, à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à très tard dans sa vie, elle a été vraiment abusée. Donc, on fait un avertissement aux gens quand ils écoutent cette première capsule-là. Puis la deuxième, c'est un homme qui vit honorablement. Il est en auto. Il est avec sa femme. L'épicerie plein en arrière dans l'auto. Et il y a un ballon qui part devant son auto. Puis au lieu de frapper l'enfant qui veut recueillir son ballon, il frappe un mur puis il devient inapte. Tout ce qu'il fait pour l'instant, il avait une bonne profession, mais pour l'instant, il emballe dans une épicerie. La troisième, c'est une femme qui a été très présente dans son milieu de travail au point d'oublier sa famille. L'alcool par-dessus ça, puis à un moment donné, elle se retrouve dans la pauvreté, on ne peut plus évidente. Puis la quatrième, c'est une belle occasion de voir qu'elle s'en est sortie. Une femme à l'âge de ses hauts 18 ans, devenue enceinte lors d'un party arrosé. Et elle dit qu'elle met de côté ses études à l'université. Puis, à un moment donné, elle s'est posée la question, coudonc, si j'ai un enfant, est-ce que je peux me permettre de retourner à l'université? Elle a le courage de terminer ses études. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'un cabinet en comptabilité qui engage 6 femmes. Elle donne à la société. Elle est membre de certains comités, certaines associations. Et elle contribue au bien commun à sa façon.
Bon, bien, merci pour l'information, Yvon. Comme j'ai dit, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode. On a parlé des capsules, mais ces capsules-là font partie justement d'un atelier. Elles existent à part entière, donc elles pourront être utilisées dans d'autres contextes, mais à la base, elles sont utilisées dans le contexte des ateliers qui sont présentés par Droit Devin RAM. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le déroulement d'un atelier? Comment ça se passe?
Ah, oui. Pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 sections dans la présentation du PowerPoint. Comme de raison, on parle de la thématique. On parle spécifiquement en préambule de qui nous sommes, Droit Devin RAM, c'est quoi la mission, pour venir au propos tantôt initialement discuté, à qui ça s'adresse, puis pour qui on fait cela, puis comment on s'y est pris. Ça, c'est le premier module de notre introduction. Puis on précise aussi à qui on veut adresser ou promouvoir ce projet-là. Fait que là, on fait le listing du milieu politique ou municipal, les appareils administratifs de l'État, on est en démarche actuellement, les clubs sociaux, les organismes communautaires, les médias, dont entre autres la TVCRA. Il va y avoir aussi un droit de parole, puis la date officielle, c'est le 18 octobre prochain, et la population générale. Après ça, on passe au questionnaire des connaissances. Questionnaire des connaissances, ça, c'est dans le PowerPoint, il y a 4 questions, par choix multiple. Puis on n'ose pas demander aux gens de répondre. On leur donne des choix, mais parce que l'atelier va durer trop longtemps. Mais là, on leur pose des questions. Savez-vous le pourcentage des personnes qui reçoivent l'aide du dernier recours de la MRC Dara? Combien qu'il y a de personnes qui vivent dans des secteurs défavorisés? Et là, j'en passe. Donc, il y a ce questionnaire des connaissances-là pour sensibiliser les participants à une meilleure connaissance de ce qui se passe dans la MRC Dara au niveau de la pauvreté. Et là, on présente la première capsule avec un avertissement. Après ça, on parle des données. Des données qui ont été prises à l'intérieur du rapport de l'indice de défavorisation de la MRC Lalande. On parle de statistiques. On parle des phénomènes de la pauvreté. On parle des coûts de la pauvreté. C'est quoi les impacts pour la société? Par la suite, là, on présente la deuxième capsule. On continue avec les données. Les pauvretés chez les personnes handicapées, chez les femmes. On passe la troisième capsule. Et là, on parle de mode solution, façon de parler. On parle de l'expérience qui a eu lieu à Vancouver. J'invite les gens à s'informer sur Vancouver et ses sans-abri. C'est une association à but non lucratif avec l'Université de la Colombie-Britannique qui ont décidé d'injecter et donner à 100 personnes dans deux groupes différents des sous pour qu'après un an, on puisse voir qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration dans leur vie. Et ça, c'est assez flagrant. Ça se passe à Vancouver, mais ça pourrait se passer ici. C'est très positif, cette expérience-là. Il y a aussi la mise en mouvement d'Impact Emploi. On leur fait part qu'il existe un organisme appelé Civil qui aide les gens à avoir, ils appellent ça l'atelier des connaissances. Ce n'est pas dans le but d'aller chercher un travail, mais toute personne qui vive en situation de pauvreté ou pas, de participer à cet atelier-là pour savoir, partager leur vécu, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce qui m'empêche de le faire. Et là, on est vraiment dans la mode solution. Et des fois, ce n'est pas toujours une solution financière. Des fois, c'est de l'accompagnement parce que les gens vivent une situation particulière. Puis, on termine avec un sondage d'appréciation sur l'atelier pour encore une autre fois, ça fait challenger par les participants pour leur dire, avez-vous aimé ça? S'ils avaient aimé, oui, puis pourquoi? Puis s'ils avaient moins aimé, c'est quoi? Puis pourquoi? Et on remercie les gens qui nous ont aidés, les partenaires, à mettre en place ce projet-là dans le but de le réaliser d'ici mars 2023. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Parfait. Puis tu as mentionné là, dans ton explication que le 18 octobre, il va avoir un droit de parole. C'est quoi ça, un droit de parole?
Parfait. C'est assez nouveau que le lieu n'est pas défini, ni l'heure, mais ça va s'officialiser cette semaine. Mais la date est vraiment définie. Là. Le 18 octobre, c'est un mardi. L'objectif ultime de ce droit de parole-là, c'est de solliciter des personnes par le biais des membres de la CDCRA à participer, parce qu'ils vivent une situation de pauvreté, de participer à cet atelier-là dans le but de créer des tables de discussion. Donc, si, exemple, j'hypothèse qu'il y a 100 personnes qui participent, on va créer des tables de 5 à 7 personnes avec une animation pour questionner les gens sur leur vécu. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent là? Un peu comme on a fait avec les entrevues pour les capsules. Donc, on va se retrouver face à face avec des gens qui vivent en situation de pauvreté pour que par la suite, être capable de faire un rapport des résultats de ces entrevues-là avec les conseils municipaux, avec les clubs sociaux, le droit de parole, avec peut-être éventuellement les politiciens. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment donner le droit à ces gens-là de nous faire part de leur vécu.
C'est très intéressant. Merci pour le partage. J'arrive maintenant avec ma toute dernière question qui est jusqu'à présent, le projet n'est pas terminé, on le sait, tu l'as mentionné, ça se poursuit jusqu'au 31 mars 2023, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans la réalisation de ce projet?
Je vais peut-être me répéter, mais la première chose, étant donné qu'on l'a fait, ça, c'est pas terminé, c'est de créer j'irais même jusqu'à dire une certaine forme de sentiment de concertation, parce que ça rejoint plusieurs personnes. Ce qui me rend fier jusqu'à ce jour, c'est que l'activité liée aux ateliers, aux capsules, aux droits de parole, répondent à un besoin. Puis ça, moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure du développement puis de l'avancement du projet. Puis une certaine forme du devoir accompli ou du devoir à accomplir. Et ça, c'est personnel, ça. C'est ça. J'y vais un peu avec mon expérience dans le privé, j'étais en affaires, puis on dirait que ça m'aide beaucoup à être capable de mettre en place une certaine structure, une certaine capacité à pouvoir propager le message Et de me percevoir que d'une rencontre à l'autre, ça a du sens, ça, cette affaire-là.
Absolument. Bien, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup, Yvon, d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec moi pour présenter ce qu'est la campagne de sensibilisation vert. J'espère que ça aura inspiré les auditeurs et auditrices. Et d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont à l'écoute et qui souhaiteraient prendre contact avec Yvon pour prévoir un atelier dans leur organisation, je mettrai les coordonnées d'Yvon en note d'épisode. Donc, elles seront facilement retrouvées. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Yvon.
Ça fait plaisir.
Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Arthabasca, la MRC de Bécancour, la MRC de Drummond, la MRC de L'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraide Centre du Québec et le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site web au crds.centreduquebec.qc.ca. Merci pour votre écoute.